si ça marche, si vous m'entendez. Je m'excuse, je suis malade, j'ai une crise de sinusite. Normalement, j'avais pas de voix et j'avais hors de rester chez moi, mais je n'ai pas voulu annuler à la dernière minute. Vous m'excusez juste. Donc moi, je m'appelle Cécile Amar, je suis journaliste. Je travaille en ce moment pour le Journal du Dimanche, journaliste politique. Et je sors dans une semaine une biographie de Fadela Amara. Donc ces sujets sont des sujets que moi, j'ai traversés dans ma vie professionnelle. Et vous avez autour de la table des gens qui sont des vrais spécialistes de ce sujet. Je vais juste lancer quelques pistes et vous présenter les uns et les autres. Donc évidemment, la question des représentants, la façon de représenter les minorités, c'est des sujets extrêmement polémiques et extrêmement brûlants dans l'actualité, parce que vous avez tous dû suivre avec autant de passion que les gens qui sont autour de cette table ronde la remise du rapport Sabeg et de ses suites. Mais c'est aussi une question, indépendamment de cette actualité brûlante, entre guillemets, plus générale sur est-ce que la représentation nationale doit être à l'image exacte ou le reflet exact de ce qu'est la représentation de la société. Est-ce que tout le monde doit se retrouver au même niveau en fonction de ce que ça pèse dans la société, les femmes, les minorités visibles, les minorités invisibles aussi. Quel est le rapport justement entre la majorité et ces minorités, entre ces minorités dites visibles et ces minorités invisibles qui sont aussi minoritaires. La question du rapport entre la diversité et l'égalité, entre les expériences étrangères, est-ce qu'il y a vraiment une singularité française, est-ce que c'est... On peut s'inspirer d'ailleurs. Et puis, petite question insidieuse aussi, en fait, qu'est-ce que ça change pour les gens d'avoir un patron qui soit noir ou qui soit homosexuel ou qui soit arabe? Est-ce que ça change quelque chose dans la vie d'une entreprise? Est-ce que ça change quelque chose dans la vie d'une société d'avoir un président, une présidente, un ministre, une ministre issue de ces minorités? Donc je vais vous présenter en quelques minutes les intervenants, puis après ils vont parler. À ma droite, Gwenaël Calvez, qui est professeur de droit public et spécialiste du droit des minorités, qui vous parlera plutôt de la représentation des minorités, comment ça passe, quelles sont les techniques, quelles sont les grandes lois qui ont été faites. Emmanuelle Cos, qui est journaliste, rédactrice en chef de Regard et ancienne présidente d'ACT UP, qui vous parlera, elle, justement, d'une minorité invisible, de comment elle est devenue visible. Et comment, une fois que cette minorité, à travers l'expérience politique d'ACT UP, devient visible, comment elle parle à la majorité. Et puis François Errant, qui est président de l'INED, qui est démographe, et dont vous avez sûrement vu qu'il était président, c'est ça, du comité de réflexion de suivi de la proposition de Yazid Zabeg. Je ne me souviens jamais de son titre exact de votre commission. Donc je m'excuse, c'est pour ça que j'ai mis comité de réflexion. Et qui nous parlera... de ce sujet plus brûlant des statistiques techniques, mais je le relancerai tout à l'heure sur un peu des sujets plus larges. Gwenaël Calvez, la parole est à vous. Juste pour la technique, chacun parle à peu près un quart d'heure et après c'est un débat avec vous. Merci. Merci.
Ça marche là? Non, ça marche pas. Hein. Ça marche? Oui, là ça marche. Oui, alors un quart d'heure, je découvre que je dois parler un quart d'heure et je vais m'y tenir, bien sûr, parce que c'est une consigne. Mais par rapport à ce que j'avais prévu d'évoquer, ça risque de bousculer un peu mon propos et je vous prie par avance de m'en excuser. Ce dont je voudrais parler, c'est peut-être un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui vient d'être exposé par la présidente de séance. Moi, j'avais pris au pied de la lettre l'intitulé de cette session, représenter les minorités, et je m'étais situé uniquement sur le terrain de la représentation politique, c'est-à-dire j'ai pas du tout inclus la question de l'université, des médias, du patron, comme vous avez évoqué à l'instant. Donc j'ai pensé pouvoir alimenter la discussion en présentant les expériences étrangères ou les dispositifs étrangers de représentation politique des minorités. Comment, quand on veut assurer au niveau politique, c'est-à-dire au niveau du Parlement, hein, ou au niveau de l'exécutif, quand on veut assurer une représentation des minorités, comment on s'y prend dans différents pays européens, pour l'essentiel, puisque je vais essentiellement me centrer sur le droit européen des minorités. Alors, évidemment, d'une certaine façon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt immédiat pour la France. Dans un second temps, j'indiquerai en quoi notre pays se situe assez loin quand même de ces possibilités d'instaurer des mécanismes de représentation politique des minorités, tout en sachant que c'est une possibilité ouverte. Rien n'est figé et on peut peut-être s'inspirer des exemples étrangers en la matière. Alors, les exemples étrangers de représentation des minorités portent sur les minorités nationales et ou les minorités ethniques. Moi, j'ai formé l'hypothèse que ce qu'on appelle en France maintenant les issues de la diversité, les issues de la visibilité, les non-blancs un peu aussi maintenant, on dit les non-blancs dans le cadre notamment de la thématique de la diversité dans les médias. J'ai formé l'hypothèse que ces différentes tournures renvoyaient à la notion de minorité ethnique, ce qu'on appelle minorité ethnique dans le contexte du droit des minorités. Donc ça, c'est peut-être une hypothèse qui peut être contestée d'ailleurs, mais enfin, c'est celle sur laquelle je me suis fondée. Donc pour commencer à présenter à très grands traits les expériences étrangères en cette matière, je voudrais indiquer qu'il y a deux grandes possibilités pour assurer cette représentation politique des groupes minoritaires, deux grandes possibilités selon que les minorités sont concentrées géographiquement ou selon qu'elles sont dispersées sur le territoire national. Si elles sont concentrées, il y a plusieurs techniques qui sont possibles. La première, c'est celle du fédéralisme dit asymétrique, c'est-à-dire qu'on va faire une forme, on va retenir pour la forme de l'État la forme fédérale, mais pas la forme fédérale au sens strict du terme, c'est-à-dire égalitaire entre les différentes composantes de l'État. On va accorder à la minorité, prenons l'exemple de la minorité québécoise au Canada, on va lui accorder, dans le cadre de ce droit, de cet État fédéral, une certaine surreprésentation, un pouvoir de blocage dans un certain nombre de décisions qui peuvent la concerner. Et l'idée ici, c'est d'éviter que cette minorité soit submergée, noyée dans la majorité numérique de l'État en question. Ça, c'est une des premières options. Deuxième option, qui peut être retenue dans le cadre d'un État unitaire, c'est accorder une autonomie locale très étendue aux minorités, aux groupes minoritaires, lorsqu'ils sont concentrés dans une région particulière de l'État. Alors ça, c'est une solution qui est très largement retenue dans les pays d'Europe orientale, enfin dans les PECO. On trouve ça en Tchéquie, on trouve ça en Slovaquie, partout où vous avez un regroupement de populations historiquement constituées, on décide, au nom du droit de la représentation politique de ces minorités nationales et ou ethniques, on décide de leur accorder un droit d'auto-gouvernement plus étendu que celle qui est retenue aux autres composantes de l'État. Dernière possibilité, lorsque ces minorités sont concentrées, c'est le découpage des circonscriptions électorales, charcutage des circonscriptions électorales, comme on voudra, qui vise à garantir qu'un membre de la minorité concernée sera élu. C'est le cas typique aux États-Unis, comme vous le savez, même si il y a une jurisprudence de la Cour suprême qui limite la possibilité de procéder à ce découpage ad hoc des circonscriptions électorales, il n'en demeure pas moins qu'on peut, on a des moyens, et ça continue à se faire très largement, on a des moyens de s'assurer qu'il y aura un noir élu à tel ou tel endroit. Il suffit de découper la circonscription électorale en tenant compte de la répartition des noirs sur le territoire en question. Donc ça, c'est un ensemble de possibilités qu'on trouve, c'est évidemment pas limitatif, qu'on trouve lorsque les minorités ethniques ou nationales sont concentrées sur une portion du territoire national. Lorsqu'elles sont dispersées maintenant, on peut jouer sur la loi électorale. On peut jouer sur la loi électorale en favorisant les partis dits ethniques, les partis qui représentent les minorités. On abaisse, par exemple, le seuil requis pour à la proportionnelle avoir des élus. Si, admettons, le seuil au niveau national, c'est 10% de voix pour avoir au moins un élu. Lorsque c'est un parti minoritaire, on abaisse ce seuil. Exemple, en Lituanie, le parti des Polonais de Lituanie n'a que 2% dans les urnes, mais ça lui assure 4 représentants au Parlement parce qu'on a abaissé le seuil dans le cadre de ce parti représentant des minorités ethniques. Donc ça, c'est assez largement répandu aussi dans les pays d'Europe centrale et orientale, cette technique qui suppose évidemment qu'il y ait des partis qui représentent les intérêts des minorités. D'autres possibilités, on réserve des sièges au Parlement pour les partis en question. On leur réserve des sièges, un par minorité. En Roumanie, par exemple, vous avez 14 minorités nationales et ethniques. Vous avez 14 sièges au Parlement qui sont réservés chacun pour une des minorités concernées. Même chose en Hongrie pour les 13 minorités reconnues. Avec en plus en Hongrie la possibilité d'utiliser sa propre langue au Parlement lorsqu'on est le représentant d'une de ces minorités. Donc là, je ne sais pas si c'est une technique de discrimination positive ou pas, mais c'est une question de qualification, c'est peut-être pas très, c'est peut-être pas essentiel. On est sûr qu'on a une représentation politique des groupes minoritaires. Dernière possibilité avec ces minorités, lorsqu'on a ces minorités dispersées, c'est un modèle qu'on peut qualifier de consociatif, où on parle aussi de fédéralisme personnel. Lorsqu'on a des minorités qui sont soit très dispersées, soit très imbriquées sur le territoire national, on décide d'élaborer un modèle de gestion de la société qui repose sur plusieurs principes. D'abord, on reconnaît les groupes en question, on leur accorde des droits spécifiques. Dans le cas libanais, par exemple, on va définir 18 communautés historiques reconnues. On va ensuite leur accorder une très large autonomie normative à ces différents groupes qui vont pouvoir avoir leurs propres institutions, notamment scolaires, mais aussi médicales, médiatiques, que sais-je. Et enfin, on décide qu'il y aura, au niveau des élites du pays en question, une coopération permanente entre les élites de chaque groupe. Dans le cas libanais, pour le reprendre, vous savez qu'il y a un partage des différentes présidences de la République, du Conseil des ministres, etc., en fonction des trois principaux groupes religieux. Donc cette règle de la proportionnelle ethnique, on la trouve par exemple dans le Trentin au Adige, une région italienne, où les groupes minoritaires et majoritaires alternent, alternent pour l'accès aux postes de responsabilité politique et administrative. Donc vous voyez, au niveau de la représentation politique des minorités, on a une très large gamme de possibilités institutionnelles, une très large gamme de mécanismes. Est-ce qu'une application est-ce qu'une transposition de cela est possible en France ? Chacun en jugera, mais je voudrais quand même indiquer que dans tous les cas, ici, il y a un choix de la part de l'État des minorités dont il estime qu'elles doivent être représentées au niveau politique, c'est-à-dire qu'elles ont des intérêts ou des valeurs ou une identité qui méritent d'être représentées nationalement. Donc ça, on choisit. Par exemple, les Roms en Europe centrale et orientale, il n'y a pas énormément de pays qui reconnaissent la possibilité pour ces Roms de bénéficier d'une représentation sui generis. Donc il faut bien comprendre qu'il y a déjà un choix de l'État sur les minorités qui méritent d'être représentées. Deuxième élément qu'il faut garder à l'esprit, il y a une liberté de choix des individus, toujours, d'être assigné ou non au groupe minoritaire en question. Il y a une clause de opting out, on peut sortir du groupe, on n'est pas tenu d'être représenté ès qualité, de faire partie de ce groupe. Il y a, le droit des minorités en Europe, c'est en fait le droit des personnes appartenant à des minorités, ce n'est pas le droit du groupe en tant que tel. J'ajoute que les finalités de cette représentation politique, c'est permettre à ces minorités historiquement constituées dans l'État de s'exprimer. Et fondamentalement, le droit qu'on doit protéger, c'est le droit à ne pas être assimilé, le droit à être protégé contre des tentatives d'absorption dans la majorité. Ce sont des groupes qui sont des groupes à la fois en soi et pour soi, disons, c'est-à-dire ce sont des groupes qui entendent maintenir une identité collective et la transmettre d'une génération à l'autre. Donc il y a un certain nombre de conditions ou de garde-fous ou tout ce qu'on voudra qui entourent ces mécanismes de représentation des minorités. Alors dans le cas de la France, chacun voit bien que j'ai encore 5 minutes, chacun voit bien que dans le cas de la France, c'est un peu compliqué parce que premièrement, les minorités en question constituées en tant que telles, reconnues par l'État, ayant conscience d'avoir des intérêts spécifiques et de devoir les défendre contre une atteinte de la majorité, les minorités en question, juridiquement c'est sûr qu'on les a pas. Sociologiquement, j'ai pas vraiment compétence pour en parler, mais il me semble tout de même que les issues de la diversité ou les issues les visibles, les issues de la diversité, il n'est pas certain qu'ils répondent aux critères habituellement retenus lorsque on consacre une minorité ethnique ou nationale pouvant aspirer à une représentation spécifique. En effet, vous savez peut-être qu'il y a un faisceau de critères à la fois objectifs et subjectifs pour définir une minorité au sens juridique du terme, à la fois sur la scène internationale et dans un certain nombre d'États qui reconnaissent ce droit des minorités. Il y a un certain nombre de données qui sont des données des caractéristiques objectives, par exemple la minorité doit être très anciennement présente sur le territoire national, la minorité doit être stable dans le temps, c'est-à-dire il faut que d'une génération sur l'autre il n'y ait pas trop de mélange, parce que sinon cette minorité va se dissoudre, il faut que cette minorité soit dotée de traits spécifiques, et donc il faut qu'elle cherche délibérément à les maintenir et à les transmettre. Alors moi, sur tous ces points, je ne suis pas certaine qu'on ait ça, qu'on ait les données, je ne suis pas sûre, mais je ne sais pas, ce n'est pas vraiment mon champ de compétences. Deuxième observation pour l'éventuelle transposition à la France de ce que je viens d'exposer à très grands traits, on a quand même une espèce de vision, de version délavée ou atténuée de cette volonté de représenter les minorités en France. On n'a pas tout ce que je viens d'expliquer, tous les mécanismes que je viens de présenter, naturellement. Mais on observe depuis la fin des années 90 une montée en puissance du thème de la nécessaire représentation des issues de la diversité. J'ai bien dit thème et pas exigence, parce qu'il ne semble pas que ça vienne de la société en tant que telle. On n'a pas, ça vient plutôt d'en haut. C'est un thème d'inspiration initialement assez bureaucratique. Il fait peut-être l'objet maintenant d'une reprise un peu par la société civile, mais initialement, ça vient quand même d'en haut. Alors, il s'agit, avec cette idée de représentation des minorités en France, il s'agit non pas d'une représentation politique, il s'agit d'une représentation au sens purement présentiel du terme. Représentation au sens assurer une présence de ces personnes dans un certain nombre de champs, l'administration, les grandes écoles, l'entreprise, l'équipe de France de football, mais ça c'est un peu calmé, mais à l'époque, à la fin des années 90, c'était très important, la télévision, le champ politique, et c'est une recherche d'image, c'est-à-dire là, la représentation, c'est représenter au sens iconographique du terme. Et c'est pour ça que la télévision, d'une part, et le champ politique, de l'autre, sont vraiment au cœur de la discussion. La télévision, pour des raisons évidentes, la télévision, c'est vraiment ce qu'on montre. Et à la fin des années 90, donc disons, ça dépend ce qu'on prend comme champ de référence, mais on peut dire 99, à partir du moment où le CSA s'est saisi de cette question, l'idée, c'était vraiment d'arriver, on est entré par l'entrée, c'était le quota, hein, le quota de minorités visibles qui apparaîtrait sur les écrans, pour manifester qu'ils sont là. Alors, à l'époque, on avait chiffré, lorsque c'était le collectif Égalité qui s'était saisi de la question à la fin des années 90, on avait dit qu'il y avait 12% de Noirs, je pense que c'est sans doute parce que, par référence à la situation américaine. Donc on avait évalué à 7 millions le nombre de Noirs en France, et on disait qu'il faudrait qu'il y ait 12% de Noirs aux États-Unis. Aujourd'hui, je ne sais pas très bien où on en est dans les objectifs chiffrés. Il y a toute une évolution, hein, puisque maintenant c'est dans le cahier des charges, il y a un observatoire de la diversité, la loi l'a consacré, cet objectif de représentation équilibrée, de reflet de la composition de la société française. On a une nouvelle commission SABEG qui a été installée le 21 avril pour réfléchir sur ces questions, en disant clairement que s'il faut recourir au quota, on y recourra. Alors là, je crois qu'ils en sont à 14%, dont 8% de Noirs, mais le reste, c'est ni des Noirs ni des Blancs. Enfin, il y a toute une question qui m'échappe un peu dans ces détails, mais on en saura plus quand cette commission rendra son rapport, je crois, à la mi-juillet. Je ne parle pas de la vôtre, François, je parle de celle qui est présidée par Spitz. Donc là, on a l'idée de la représentation au sens représentation-reflet, représentation proportionnelle, c'est la monstration. Représenter, c'est montrer des visages, montrer des individus qui seront, par exemple, des comédiens, des journalistes, des présentateurs météo, qui ne seront pas vraiment des représentants au sens politique du terme, qui seront, parce qu'ils n'ont pas de mandat, naturellement, qui seront des exemples au double sens du terme, au sens spécimen, un exemple, un échantillon, un spécimen, et au sens exemplum, au sens modèle à suivre. Hein, et là-dessus, il y a toute une littérature, d'ailleurs, aux États-Unis sur la difficulté à tenir ce rôle hein, de l'exemple. Bon, on aura peut-être bientôt cette littérature qui viendra en France, et c'est souhaitable parce qu'elle permet quand même de faire le point sur les enjeux associés au fait de propulser un individu porte-parole en ce sens un peu filandreux d'un groupe. Bien. Et en politique, vraiment là je termine par là, en politique c'est mutatis mutandis à peu près la même chose, c'est-à-dire que les issues de la diversité, aussi bien au gouvernement que dans les partis qui se sont maintenant engagés dans une course à la diversité depuis, là c'est un peu après la télé, je pense que c'est arrivé au début des années 2000, là on demande à peu près quand même la même chose, c'est-à-dire on demande d'incarner. Là aussi, représenter c'est incarner, c'est être là, c'est se montrer. Et incarner, On incarne d'autant mieux qu'on n'a pas vraiment d'épaisseur politique, ni de parcours politique, ni de conviction. D'ailleurs, on le voit bien, hein, les personnes qui ont été nommées au titre de la diversité depuis quelques années sont des gens qui sont des novices en politique, très souvent. En plus, des femmes, souvent, ça permet quand même de désamorcer ce qu'il pourrait y avoir de légitimité propre acquise ailleurs, légitimité élective, légitimité technique, légitimité scientifique, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir comme type de légitimité en politique. Mais vous voyez que Tokia Saifi, Azouz Begag, Fadela Amara, je vous laisserai, j'en parlerai pas devant vous, de peur de me faire remonter les bretelles, mais on a donc des personnes qui sont choisies essentiellement parce que elles ont le un peu comme un comédien qui incarne d'autant mieux le rôle que il ne l'habite pas, c'est pas sa vie, sont choisies parce qu'elles sont un peu vides. Et on parlerait pas de, aux États-Unis, je pense qu'on parlerait de tokenism. Pas très bien comment, c'est pas laudatif, hein, comme terme. Ça renvoie, disons, à une introduction goutte à goutte et très contrôlée d'individus qui sont là uniquement pour montrer, hein, pour se montrer, pour symboliser. Alors voilà, je conclue juste comme ça, hein, en disant que cette manière d'envisager la représentation politique. Je ne pense pas qu'elle aille dans le sens, puisque c'était le thème du forum, hein, sur réinventer la démocratie, la représentation, etc. Je ne pense pas que cette manière d'envisager la représentation, au sens donc iconographique, soit de nature à vraiment contrer la crise de la représentation que connaît actuellement la France. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, la parole à Emmanuel sur une autre expérience minoritaire.
Absolument. Moi, je vais plutôt parler de, non pas de comment représenter en politique les minorités, mais comment on peut représenter un terrain minoritaire dans le champ politique. C'est pas exactement la même chose et c'est beaucoup plus lié à mon expérience personnelle, mais j'espère quand même que ça répondra un peu au sujet. Il se trouve que certains d'entre vous qui sont dans cette salle connaissent des éléments personnels de ma vie, notamment mon orientation sexuelle et mon statut sérologique. Pour une simple et unique raison, c'est que j'ai été présidente d'une association lutte contre le sida qui s'appelle ACT UP Paris de 1999 à 2001, qui est une association majoritairement composée d'hommes homosexuels et séropositifs. Et je suis une femme hétérosexuelle et séronégative. Et ce groupe m'a élue pour les représenter justement et représenter un combat minoritaire, qui est le combat des personnes malades du sida. Alors même que je ne suis pas touchée personnellement par la maladie. Alors avant d'expliquer comment on peut en arriver là et aussi comment au sein de notre association, je crois que mon élection, puis par ensuite l'élection d'une autre présidente hétérosexuelle et séronégative a pu permettre de montrer que c'est justement qu'il n'y avait pas besoin d'une identification entre le groupe de l'association et leurs représentants porte-parole politique. Avant de vous expliquer ça, je veux aussi un peu vous parler de notre expérience politique à ACT UP, parce que justement, elle a passé son temps et elle continue. On continue à passer notre temps de réfléchir à justement comment porter dans le champ politique des combats politiques qui sont liés à des minorités. Alors non pas des minorités dites visibles, ethniques, mais là plutôt des minorités fondées sur l'orientation sexuelle ou des minorités qui se retrouvent dans une identité différente, celle d'être atteint par une pathologie comme le VIH, ou aussi, puisque d'être un usager de drogue et de se constituer une identité à travers cela, ou aussi de se constituer une identité à travers sa position de femme, tout simplement. Donc nous, c'est l'usage qu'on a fait du sens du mot minorité dans notre association, plutôt tiré par notre lecture de Gilles Deleuze et de Michel Foucault, qui nous ont évidemment beaucoup inspirés durant toutes ces années d'activisme. C'est d'autant plus intéressant parce qu'aujourd'hui, ACT UP va fêter ses 20 ans dans un mois. Et c'est un peu étonnant j'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, je parle de choses qui paraissent absolument normales, alors qu'il y a 10 ans encore, elles étaient particulièrement violentes et on nous le renvoyait fortement dans la société. Donc ACT UP, c'est un groupe minoritaire. C'est un groupe qui a été composé en 1989 par des personnes malades du sida, en majorité homosexuelles, même s'il y a toujours eu des hétérosexuels dans le groupe, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Mais une majorité, ça je tiens de le dire, car c'est pas non plus, on n'a pas non plus été les plus divers, un groupe majoritairement blanc. Et ça, c'est une autre question que même les groupes minoritaires arrivent eux-mêmes à imposer des majorités dans leur minorité. Et c'est un groupe qui s'est notamment constitué en réponse à l'incurie des pouvoirs publics à la fin des années 80 sur leur incurie face à l'épidémie de sida qui gagnait évidemment la France et qui a causé énormément de drames personnels. Et si ce groupe existe à ce moment-là et se définit comme un groupe majoritairement homosexuel, c'est-à-dire qu'il impose sa composition de minorité, c'est notamment parce que, à l'époque, c'est bien ce qui pose problème au pouvoir public pour apporter une réponse à l'épidémie de sida. Notamment parce que cette épidémie est perçue comme une maladie marginale qui ne toucherait que des groupes particuliers peu au cœur des politiques de santé publique. Et que c'est seulement à partir des années 87-88 quand on se rend compte que c'est un fléau, que c'est une pandémie qui va toucher tout le monde à travers toutes les classes sociales, toutes les classes de genre, tous les milieux ethniques. Donc c'est à partir de ce moment-là que les mobilisations vont un peu se développer. Mais il faut dire aussi que c'est parce que ça a touché en particulier des minorités telles que les homosexuels, minorités qui, dans les années 80, certes, avaient un statut légal adouci, puisque l'homosexualité avait été était sortie du champ répressif en 82. Il n'empêche que c'était des groupes qui n'avaient pas de droit en tant que tel, et notamment qui vivaient dans un contexte sociétal d'homophobie très fort. Ce qui explique aussi que c'est aussi en partie l'homophobie qui a fait que on n'a pas voulu faire de la publicité sur les préservatifs jusqu'en 1987, informer les milieux les plus touchés au début de l'épidémie des risques qu'ils encouraient, notamment les homosexuels, mais aussi d'autres milieux. Et puis aussi qu'on a pu, y compris dans un journal dit de gauche qui s'appelle Libération, je vous le rappelle, parler de cancer gay pour parler du sida, en pensant bien pendant quelques mois que c'était l'explication de cette pathologie. 25 ans et plus d'épidémie de sida nous ont montré que c'était bien autre chose. Au-delà de ça, donc ce groupe ACT UP qui est minoritaire, mais qui a su être composé par des gens de toute leur diversité sexuelle, sérologique, diversité de genre, est un groupe qui donc s'est toujours battu au nom des malades de lutte contre le sida, mais qui a toujours voulu investir le champ politique depuis un point de vue minoritaire vers le majoritaire. Je veux dire par là que quand ACT UP a commencé à se battre pour une meilleure prise en charge par la sécurité sociale de l'affection du sida, qui permettra ensuite après d'obtenir un remboursement à 100% en 1993, quand on s'est battu pour améliorer les conditions de logement des personnes malades, on ne s'est pas battu pour les malades du sida, on a commencé à se battre pour l'ensemble des personnes atteintes de pathologies graves. Quand on a commencé dans les années 94-95 à essayer d'obtenir une disposition législative pour obtenir l'inexpulsabilité des sans-papiers atteints de pathologies graves, on l'a fait depuis ACT UP, mais au nom des pathologies graves et pas au nom d'une catégorie, les malades du sida. Et surtout, toutes ces batailles que nous avons menées, il y en a beaucoup d'autres, elles l'ont été face à des lois, à une république, à un parlement qui, lui, agit au nom de la majorité et qui, néanmoins, traite de ces minorités. Si vous acceptez, comme moi, de considérer que les homosexuels peuvent être une minorité, que les sans-papiers peuvent en être une autre. On a toujours, nous, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'ACT UP est devenu un groupe relativement politique, on a toujours eu l'ambition de lutter contre le sida depuis, évidemment, notre expérience de malade, mais aussi montrer que lutter contre le sida, c'est lutter immédiatement au-delà du sida, c'est lutter contre les conditions qui le favorisent, des conditions de précarité, des conditions de répression, des conditions d'invisibilité. Parce que la grosse question quand même dans l'histoire, c'est évidemment la question de l'invisibilité des minorités. ACT UP s'est créé notamment pour une seule raison, c'est qu'il fallait donner une visibilité à la télévision, donner des visages, donner des noms, donner des incarnations justement de la maladie. Et arrêter avec des images floutées, des bandeaux sur les yeux et tout ça. C'était aussi donner une visibilité de c'est quoi l'homosexualité au début des années 90, dans toute son ampleur, c'est quoi le couple homosexuel, c'est quoi la vie d'une population atteinte par une pathologie grave, mais c'est aussi quoi la vie d'une femme séropositive dans le milieu des années 90. Donc, on a toujours justement essayé de faire ça, c'est-à-dire d'aller dans le champ politique pour dénoncer ces conditions qui favorisent l'épidémie, et notamment de lutter contre tout ce qui peut conduire à l'invisibilité, à la clandestinité des minorités et des membres de la population les plus fragilisés. Ce qui fait, bon après c'est aussi un peu de l'histoire militante, mais bon il se trouve que voilà, en 1999, j'ai été élue à la tête de cette association par 200 personnes, donc je veux simplement vous dire que c'est pas juste la lubie d'un petit groupe, et j'ai d'ailleurs été réélue l'année d'après, justement pour porter cette parole d'une minorité qui est celle de personnes qui ont en commun d'être touchées par une maladie mortelle. Alors même que moi-même, dans mon identité personnelle, je n'étais pas touchée. Et c'était aussi de porter un discours qui soit en cohérence avec la composition du groupe, c'est-à-dire un groupe majoritairement homosexuel. Donc j'ai été élue, ça a été un grand chambardement dans les médias à l'époque. Je vais vous raconter une anecdote pour aussi vous montrer c'est quoi la perception des minorités dans la société. J'ai eu beaucoup d'interviews, notamment parce que je représentais un visage, plus facile, plus acceptable. Je n'étais pas malade, je n'étais pas homosexuelle, j'étais blanche, j'étais une femme. Bon, finalement, peut-être qu'être une femme, c'était encore un peu compliqué. Mais c'était finalement plus facile de parler avec moi du sida, parce que justement, je n'étais pas malade et que je n'incarnais pas cette maladie. Et alors d'autant plus, je me souviendrai toujours, je pense, de cette remarque d'un journaliste, d'un hebdo, je pense que c'était VSD, mais je me trompe peut-être, mais je crois quand même que c'était ça, qui finalement a conclu une interview en me disant « Mais finalement, vous êtes normal, vous ». Alors bon, d'un seul coup, on se dit « Normal, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et donc pour lui, voilà, il trouvait que c'était très bien parce que finalement, ACT UP était rentré dans la normalité, puisque maintenant, il y avait quelqu'un de normal à sa tête. Ce qui veut dire aussi ce qu'on pense par la norme, le majoritaire, la norme qui va créer le majoritaire, qui va dire ce qui est dans le majoritaire et ce qui n'y est pas, et qui est aussi une grille de lecture. Et c'est vrai que j'avais été particulièrement choquée par cette réflexion, mais en fait, c'était totalement du bon sens pour ce journaliste. C'était pas du tout... méchant ou avec des visées conservatrices ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. Simplement que, voilà, il trouvait que c'était bien parce que simplement, il pouvait s'identifier parce qu'il avait quelqu'un comme lui en face, c'est-à-dire quelqu'un d'hétérosexuel, et que donc la norme sexuelle, le fait qu'il n'y ait pas de différence d'orientation sexuelle ça lui permettait de mieux comprendre le combat des homosexuels. C'est quand même un peu tortueux comme raisonnement. D'autant plus que j'ai été élue en pleine bataille sur le PACS, le pacte d'union civile, qui a été finalement validé par le Conseil constitutionnel le 15 novembre 1999. J'étais présidente d'ACT UP. Et évidemment, la seule question des journalistes à l'époque était de me demander si je voulais me paxer, puisque le PACS existait. Alors que justement, à ACT UP, au nom du minoritaire, on s'est évidemment battu pour améliorer le texte du PACS tel qu'il a été, mais notre revendication a toujours été celle du mariage. Puisque notre vision de la République, puisqu'il faut aussi parler de qu'est-ce qu'on met dans la République quand on est une minorité, c'était la République doit nous assurer une égalité des droits. Pas seulement une représentation, pas seulement un peu de compassionnel et un peu de disposition législative quand vous criez trop fort, mais une égalité réelle des droits. Donc une égalité, ça veut dire qu'un couple homosexuel, on considère qu'il il a les mêmes droits qu'un couple hétérosexuel. Donc le mariage. Et pourquoi créer un contrat particulier. Et voilà, donc c'est vrai que je me suis retrouvée, de fait, à porter la parole d'un groupe majoritairement homosexuel qui défendait le mariage des couples homosexuels, au moment où le PACS est sorti, et où moi-même, j'étais ravie que ce contrat existe parce qu'il permettait d'ouvrir des droits à des personnes hétérosexuelles ou homosexuelles qui ne voulaient pas rentrer dans d'autres formes d'union. Mais par ailleurs, je trouvais le combat inabouti, et je le trouve toujours, puisque... ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on puisse justement inverser la norme du mariage et permettre une égalité réelle des droits. Oui, je parle trop, c'est ça? Ça va? Et alors pourquoi j'en viens à parler du PACS ? Parce que justement, dans un combat comme celui d'ACT UP, qui a été évidemment sur le terrain du sida, mais qui s'est aussi battu sur la question des droits à l'union, qui s'est aussi beaucoup battu et continue à se battre beaucoup sur les questions d'immigration et de défense des droits des migrants, ce qui est intéressant, c'est qu'aussi aux minorités, on leur envoie toujours le schéma de l'universel, c'est-à-dire que nous vivons dans une république qui défend l'universel et qu'au nom de l'universel, on ne peut justement pas donner trop de place à ces minorités. C'est un débat qui n'est certes plus exactement le même aujourd'hui. Le débat actuel ne porte pas exactement sur les mêmes choses. Mais quand même, il est important de le rappeler parce que notamment une grande partie de la gauche, à mon avis, s'est un peu embourbée sur cette question-là, et notamment à l'occasion du PACS. Désolée de revenir tout le temps là-dessus, mais parce que je crois que c'est un moment politique, certes, c'était il y a 10 ans, mais qui a été assez important là-dessus. Parce que finalement, au nom de l'universel, c'est au nom du fait qu'il ne fallait pas reconnaître des droits à un groupe spécifique que beaucoup des parlementaires, ceux de la droite, y compris ceux qui aujourd'hui vous disent qu'ils n'ont jamais fait ça, mais une grande partie de la droite, et y compris des gens qui sont au gouvernement, Christine Boutin certes, mais beaucoup d'autres, y compris Nicolas Sarkozy, mais aussi des députés de socialistes qui, par ailleurs, ont fait la preuve de leur courage à l'époque puisqu'ils avaient déserté les rangs de l'Assemblée, ce qui avait permis de retarder les débats du PACS avec l'adoption d'une exception d'illégalité, un peu ce qui s'est passé avec la loi Hadopi il y a quelques semaines. C'est au nom de l'universel que des membres du Parti socialiste, que des membres du MRC, que des intellectuels se sont opposés au PACS. Non pas au nom de... surtout pas, grand Dieu, surtout pas au nom d'un rejet de l'homosexualité, au contraire, ils s'en défendaient bien, mais au nom du fait qu'on allait créer des droits spécifiques, alors même que le PACS est un contrat qui a été créé pour tout le monde. Justement parce qu'on ne voulait surtout pas ouvrir le mariage aux couples homosexuels, on a créé ce pacte qui s'adresse à tous les couples. Mais donc, vous voyez aussi comment on peut aussi à un moment utiliser, soi-disant, les valeurs de la République, l'universel, l'universalisme, cette égalité dans laquelle nous serions construits et dans laquelle nous évoluerions, pour finalement nier des droits. Parce que derrière la question du PACS, il se passe quoi ? C'est une demande absolument légitime de couples installés des années durant qui, à l'aune de l'épidémie de sida, parce que ça vient de là, le PACS, à l'aune de l'épidémie de sida, se rendent compte qu'ils n'ont aucun droit, notamment testamentaire, notamment aucun droit au maintien du bail. Moi, je peux vous dire, dans mon expérience à ACT UP, j'y suis depuis 1992, les histoires de partenaires qui se retrouvent mis à la porte de chez lui le jour du décès de son compagnon, il y en a eu beaucoup dans les années 90. Et le PACS, il vient de là, au départ. Il vient du désir de couples homosexuels qui se sont justement visibilisés, qui ont fait leur coming out, qui ont été gagnés des droits dans les années 70 et 80, qui se retrouvent en 90 dans une situation de fragilité absolument terrible et qui finalement se revoient renvoyés à leur inexistence, puisqu'ils ne sont rien pour la République, ils ne sont rien. Et puis quand ils demandent, on leur rappelle qu'ils ne vont surtout pas demander des droits spécifiques. Donc, si je dis ça, c'est parce que le débat du PACS a eu lieu avec tous ces débordements et on peut espérer que justement, on pourrait ne pas y revenir. Mais ça nous montre aussi comment on peut... au nom justement de l'universel et au nom de la majorité, faire en sorte que des minorités n'aient pas de droit. Et sincèrement, je crois que c'est un moyen de se faire voyer. Surtout que, par exemple, dans un groupe comme ACT UP qui a une expérience politique particulière, il n'a jamais demandé des droits spécifiques. Ce qui a été demandé, c'est que depuis des groupes spécifiques avec une identité particulière qui se constitue, qui estime être dans une minorité, c'est de demander une reconnaissance des droits, mais dans une idée d'égalité des droits, c'est-à-dire que des droits qui ont une valeur majoritaire pour tout le monde. Et qu'il ne s'agit pas simplement d'un octroi particulier. Il s'agit bien d'aller vers le général. Je vais bientôt finir. Tout ça pour ça. Mais aussi pour dire que finalement, c'est évidemment pas du tout la même question que la représentation des minorités ethniques, minorités visibles, qui sont justement elles aussi invisibilisées. Je pense que moi, j'ai pu représenter une minorité particulière malgré un visage que je donnais à cette minorité qui était totalement inversé. Ça pouvait aussi marcher parce que je crois que le groupe ACT UP était politiquement suffisamment fort pour imposer son discours, et que peut-être qu'on a aussi eu beaucoup de chance pour ça. Mais en même temps, on a aussi nos écueils. Et puis notre histoire d'inversion de la représentation du majoritaire et du minoritaire marche par tout le temps. Par exemple, à ACT UP, alors qu'on s'est grand Dieu beaucoup battu sur la question des migrations et qu'on continue, on n'a jamais on l'a écrit, on l'a dit, mais on n'y a jamais vraiment cru qu'on pouvait nous-mêmes représenter les étrangers sans papier. Aussi parce qu'on ne vivait pas dans notre chair l'instabilité et la précarité que c'est de ne pas avoir de papier. Même si par ailleurs, on partageait avec eux le sentiment d'invisibilité, de clandestinité. Tout ça aussi pour dire que... Je vais juste intervenir une minute sur le débat actuel parce que, et sur la question de la représentation de la diversité aujourd'hui. Parce que je trouve aussi... même si je n'ai pas de position, par exemple, position très arrêtée sur les statistiques ethniques et tout ça, mais simplement, je me demande toujours pourquoi faire ça ? À quoi ça sert ? À quoi sert cette volonté aujourd'hui nouvelle de vouloir des représentations justement de toutes les minorités, y compris de l'homosexuel à la télévision ? Parce qu'on a évidemment, il faut représenter l'Africain, mais il faut aussi le black, le burm, il faut aussi représenter l'homosexuel. C'est pourquoi faire ? Sincèrement, ça change des choses, évidemment. Ça change toujours des choses, notamment dans le partage de la culture des gens. Mais bon, vous pouvez mettre autant d'homosexuels que vous voulez à la télé. Si à un moment, vous ne votez pas contre l'homophobie, notamment légalement, ça ne permet pas d'arrêter des comportements racistes. De la même manière, on pourra demain avoir des statistiques ethniques. Ce n'est pas pour autant que les politiques antidiscrimination françaises permettront d'assurer une meilleure diversité. Je veux dire, on ne peut pas simplement penser que les statistiques vont permettre d'un seul coup de changer des pratiques sociales qui sont ancrées, qui ne sont pas réprimées. Et puis, d'autant plus dans un contexte aujourd'hui qui a bien changé. Parce qu'il y a quand même un truc, moi je pense que c'est important, y compris dans un débat sur la question minoritaire, de rappeler qu'aujourd'hui nous avons un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Donc nous avons quand même un ministère qui poursuit des sans-papiers au nom d'une identité nationale qui est la nôtre, hein, notre identité soi-disant. C'est au nom de notre identité qu'on fait ça. Et ça interroge évidemment aussi. On ne peut pas distinguer la question actuellement du traitement des migrants de cette question-là. Parce qu'évidemment, la représentation des minorités, notamment ethniques, va jouer là-dessus. Bon, j'en termine, parce que sinon je vais me faire chasser.
Qu'ils puissent parler eux aussi.
Merci.
La parole à François Héron.
Merci. Eh bien, diversité pour diversité, je vais encore en rajouter. En étant encore décalé par rapport aux deux précédents exposés, je suis ici en route secours à la place de Pape Ndiaye, qui était initialement prévu, et donc je ne sais pas si vous allez gagner au change. J'ai peur que non. Je vais donc improviser un certain nombre de choses. Représenter les minorités. Moi, je suis beaucoup fait de statistiques sociales, je dirais. Évidemment, on utilise beaucoup la notion de représentativité dans notre discipline. C'est-à-dire qu'on essaie très souvent, et pour nous, c'est un idéal, qui n'est pas celui, par exemple, des essais cliniques ou de l'épidémiologie, c'est d'avoir des échantillons qui soient nationaux et représentatifs. C'est-à-dire qu'on tire au sort. On tire au sort dans l'ensemble de la population, et à ce moment-là, on est sûr, si l'effectif est suffisant, qu'on va avoir de tout dans cet échantillon et qu'en gros, on aura de tout à peu près dans les proportions où ça existe dans l'ensemble de la société. C'est une technique qui est quand même assez révolutionnaire, même si le tirage au sort est une pratique antique, mais qui est assez remarquable. Et j'ai toujours trouvé que le droit n'avait pas réussi à suivre l'émergence de cette nouvelle notion de l'individu. C'est pas l'individu qui est représentatif dans une enquête. En toute rigueur, aucun individu n'est représentatif, c'est un échantillon qui est représentatif. C'est un groupe, une collectivité qui peut être représentative. Mais l'individu est porteur de quantités de caractéristiques, elles sont de plus en plus riches et de plus en plus nombreuses à mesure que les enquêtes progressent. Et l'individu est une combinaison unique de caractéristiques qui peut partager avec une partie des autres fractions de la population et diversement, justement. Voilà, alors ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je ne me suis jamais intéressé à l'individu en tant que tel, mais à un individu porteur de caractéristiques à l'intérieur d'un échantillon représentatif. Ça, c'est très difficile à faire comprendre, aux juristes notamment. C'est pas un conflit qu'on a avec eux, mais ce sont des cultures différentes qui, à travers des procédures qui existent maintenant, car nous devons travailler sous le regard de la société civile, essaient peu à peu de s'apprendre mutuellement comment l'autre travaille. Alors, c'est un des aspects qui nous intéresse dans le fameux comité dont je vais un peu vous parler. Je passe aussi quand même quelques mots auparavant sur ethnique, le mot ethnique. En grec moderne, actuellement, ethnikos, ça veut dire national, tout simplement. Le trapèze ethnique, c'est la banque nationale, par exemple. Ethnique, ce sont les Allemands qui ont commencé à utiliser ce terme. Les Américains les ont repris, les Américains d'origine allemande, pendant la Première Guerre mondiale. Ethnique a eu un petit peu de sens. Il y a d'une part des groupes qui partagent tout ou partie d'une série de caractéristiques. Pas nécessairement toutes, mais au moins une bonne partie. Ils peuvent avoir un territoire, ils peuvent avoir une langue. Ils ont souvent une histoire commune, souvent c'est dramatique. Ils ont une culture, une architecture, parfois une gastronomie, ils ont, etc., etc. Bon, ils ont une certaine stabilité, même si toutes sortes de drames ont pu leur arriver. Et ils n'ont jamais eu la possibilité d'être érigés en nation, en peuple souverain. Et à ce compte-là, évidemment, si vous prenez en compte cette définition qui est très anthropologique, les Alsaciens sont dans ce cas-là, évidemment. Ils ont une langue, un territoire, une histoire très particulière, etc. Personne ne peut le nier. Quand on est en Alsace, on s'en aperçoit immédiatement. Mais les Bretons, les Basques, etc. Bon, alors, c'est pas d'eux qu'on parle beaucoup ces temps-ci, évidemment. Et il y a une autre notion de l'ethnicité, qui est plutôt ce qui reste quand vous êtes dans un pays d'une nationalité que vous avez eue autrefois. Et c'est plutôt cette extension-là, donc les origines, finalement. Que cette minorité soit reconnue ou pas par l'État d'accueil est une autre question, mais sociologiquement, ces origines sont là, plus ou moins apparentes, et plus ou moins susceptibles d'offrir une prise à des comportements discriminatoire, et c'est en cela évidemment que ça nous intéresse. Mais on a toujours eu beaucoup de mal à appliquer cette notion ethnique. Je suis frappé de voir qu'un grand nombre d'expressions anglo-saxonnes où on utilise le mot ethnique ne sont pas traduisibles directement en français. Quand on dit the ethnic Albanians in Kosovo, les Albanais ethniques au Kosovo, on ne dira jamais ça, nous. On dit les Albanais du Kosovo, c'est comme ça qu'on dit. Mais on ne dit pas les Albanais ethniques. Or, c'est une expression absolument courante aux États-Unis. Donc, il y a des usages du mot ethnique qui sont très difficiles chez nous. Bon, peu à peu, via la sociologie, via le journalisme, cette idée s'est répandue que ethnique peut renvoyer à quelque chose qui est assez ambivalent, qui est soit une origine nationale, soit ce qui, dans l'apparence physique, peut traduire une origine différente. Et c'est un peu ce double registre qui rend les choses un peu difficiles. Donc, toujours est-il que ceci peut être le support d'une discrimination. Je ne vais pas refaire, tout le monde sait à quel point la question des discriminations est devenue importante. C'est sous la pression de l'Europe, il faut le rappeler, qu'on a dû créer la haute autorité de lutte contre les discriminations. On avait le GELD auparavant, mais enfin, c'était quand même pas grand-chose. C'est un sujet qu'on nous demande, à nous, statisticiens sociaux, de traiter de plus en plus souvent. Donc nous, on a des demandes qui sont diffuses, générales, réparties sur plusieurs ministères, qui viennent parfois de certaines associations, qui viennent de commandes européennes, qui viennent aussi d'initiatives propres, évidemment. C'est un peu un mélange de tout ça. Et de plus en plus, on se dit, comment fait-on pour étudier la discrimination? Comment faire? Alors, je peux avoir des philosophes, des gardiens du temple, des gens qui, de haut, de très loin, avec aplomb et surplomb, m'énoncent les principes. Mais moi, je suis avec les soutiers. Je suis plutôt dans le back-office que dans le saint-office, si j'ose dire. Et il faut que je trouve les moyens de travailler et de m'y prendre. Et comment décrire les supports de la discrimination sans en parler? Comment évoquer les effets de la discrimination sans en parler, sans désigner ce dont on parle? C'est la grande difficulté. Alors, nous avons pour cela un instrument qui est la statistique. Il y a une image de la statistique dans le pays qui est assez contrastée, qui est complexe. La statistique, très souvent, elle est réduite au comptage. Réduire la statistique au comptage, ça m'attriste profondément. C'est comme si on disait la musique, c'est une suite de notes. La peinture, c'est des couches de couleurs sur un support. Bon, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas encore dit grand-chose sur la peinture ou la musique. Parce que ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est l'analyse statistique. c'est la mesure des évolutions, des écarts, des probabilités d'accès, des facteurs qui réduisent ou augmentent vos chances. C'est ça la statistique. C'est quelque chose d'infiniment plus intéressant. Je dirais que ce qui est de moins intéressant de la statistique, c'est le comptage. En général, quand je fais des leçons à des étudiants, je commence par dire ça. Donc c'est et là, notre outil statistique s'est considérablement perfectionné par la possibilité qu'il a, ou la prétention, enfin, il faut après le réfuter, il faut montrer qu'une autre technique aurait un pouvoir explicatif supérieur. Ça, c'est le jeu de la discussion scientifique, qui n'est pas fait de censure ou de blackout, mais qui est fait de réfutation et d'avancée par discussion. Eh bien, c'est la possibilité de montrer que dans tous les facteurs qui permettent d'accroître ou de réduire les chances d'accès aux biens de toutes sortes, la santé, l'éducation, l'espérance de vie, la profession, l'emploi, etc., etc., eh bien, dans tout ce paquet de facteurs, nous pouvons, d'une certaine manière, le démêler. Alors, je vais vous donner un exemple qui va tout de suite vous montrer à quel point on ne sait pas tout dans cette histoire. Je suis toujours stupéfait de voir qu'à entendre certains, on saurait déjà tout. Ben non. Pour mesurer la diversité et les discriminations, il faut d'abord mesurer notre ignorance. Et elle est grande. Je vais vous prendre l'exemple de l'accès à la fonction publique. On sait seulement, depuis l'enquête formation et qualification professionnelle, qui est la grande source sur la mobilité sociale en France, hein, le fameux ascenseur social, on le connaît par une source fondamentale, qui est l'enquête formation et qualification professionnelle, qui est faite à peu près tous les 10 ans. Bon, ce qui n'est pas une très grande fréquence. Après, chaque recensement, à l'époque où le recensement se faisait de façon ponctuelle. Eh bien, on a maintenant la profession, le pays de naissance des deux parents des personnes interrogées. Ce qui permet d'identifier grosso modo les enfants d'immigrés et donc de savoir quelles sont les chances d'accès à l'emploi, par exemple, à la promotion professionnelle des enfants d'immigrés. C'est depuis l'enquête de 2004. C'est tout récent. C'est une conquête toute récente de les statistiques publiques d'avoir le droit de poser ce genre de questions. Il y a eu pour l'instant un seul article publié sur cette enquête pour essayer de savoir quelle était la probabilité des enfants d'immigrés d'accéder à la fonction publique. Un seul article pour l'instant. Et que Conel Calvez connaît bien, c'est l'article de Pouget, hein, que vous connaissez très bien. Et voilà. Alors, quand on regarde les effectifs concernés, si vous essayez de savoir, est-ce que les filles de l'immigration algérienne ont accès plus facilement à la fonction publique que les garçons? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas assez d'effectifs dans l'enquête. Et l'enquête ne se fait à peu près que tous les 8, 9, 10 ans. Bon. Donc, on est quand même très loin de... Alors, il y a une variable intéressante, c'est... quand vous êtes enfant de non-fonctionnaire, plutôt quand vous êtes enfant de fonctionnaire, vous avez une probabilité de devenir fonctionnaire qui devient plus forte. Ce n'est pas une surprise. Il se trouve que les enfants d'immigrés sont, dans l'immense majorité des cas, des enfants de non-fonctionnaires. Et que donc une partie de leur difficulté d'avoir accès à la fonction publique est liée au fait qu'ils ne sont pas enfants de fonctionnaires par définition. Donc une partie de cette inégalité des chances d'accès transite par le fait qu'ils n'ont pas de parents fonctionnaires, et une autre partie va transiter encore par d'autres facteurs. Il va falloir étudier. Et là-dedans, il peut y avoir les diplômes des parents, l'univers des possibles tel qu'il était envisageable par des parents venus d'un pays étranger, etc., etc. Enfin, tout ça est assez compliqué. Personne, j'ajoute le sexe, la génération, les cohortes, j'ajoute le fait que tout ça, ça change complètement d'un ministère à l'autre. En gros, vous soupçonnez bien que le recrutement au ministère des Affaires étrangères ou de la Culture, ce n'est pas tout à fait le même que le recrutement au ministère de l'Intérieur, par exemple. Hein. Bon, on ne sait pas d'ailleurs du tout. On a aucune image pour l'instant de ce qui se passe d'un ministère à l'autre sur ces questions quand même assez fondamentales. On a le concours administratif, mais enfin ça ne suffit pas parce que les résultats sont quand même très différents. Qu'est-ce qui, dans l'inégalité des résultats et des chances d'accès et de promotion, car il n'y a pas que la barrière à l'entrée, il y a aussi tout le déroulement de la carrière qui pose un problème redoutable dans la mesure. Le testing, c'est formidable pour la barrière à l'entrée, mais une fois qu'on a franchi la barrière à l'entrée, qu'est-ce qui se passe? Là, le testing n'est plus d'aucun secours. Alors, aucun cerveau ne peut démêler tous les facteurs qui entrent en jeu pour expliquer des mécanismes comme cela. Il faut absolument prendre une vue d'ensemble, essayer de trouver des échantillons représentatifs avec un modèle aussi bien décrit que possible, c'est-à-dire avec des facteurs explicatifs aussi variés, aussi pertinents que possible, et puis essayer de voir un petit peu, de peser séparément le poids de chaque facteur. voilà, l'âge, le sexe, les mesures prises par tel ministère pour améliorer telle formule d'entrée, etc., etc. Les origines sociales versus le pays d'origine, etc., etc. Sans instrument de totalisation, d'une certaine manière, et d'analyse, comment avoir une vision de ça? C'est extrêmement difficile. Je vous prends un exemple. Je dis, je dirige un organisme où il y a à peu près 240 personnes. Bon. Je constate depuis 10 ans que les filles d'immigration maghrébine réussissent les concours de techniciens. Bon. Et je ne vois aucun garçon, et absolument aucun garçon. Quelle est l'explication? Est-ce que c'est parce que mon concours, mes procédures de recrutement parfaitement républicaines, n'est-ce pas, selon les textes, dissimule, abrite des pratiques qui, d'une certaine manière, éliminent les garçons et favorisent les filles? Est-ce que c'est parce que les filles sont plus diplômées que les garçons? Est-ce que c'est parce que, culturellement, elles n'ont pas la même attitude? Je n'en sais rien. J'ai lu toutes sortes de choses là-dessus qui vont dans des sens assez variés. Et finalement, moi-même, dans le tout petit univers où je suis censé connaître tout le monde, parce que j'ai une interconnaissance intégrale de 140 personnes, je connais absolument tout le monde. Ça ne me suffit pas, je ne connais que mon univers, mais je ne connais pas l'univers environnant. Et pour calculer les probabilités d'accès, il faut connaître l'univers environnant. Quand vous étudiez une association, il faut étudier les non-membres de l'association pour comprendre ce qu'est l'association, ce qu'elle représente par rapport à l'extérieur. Donc c'est le même problème. Alors l'outil statistique, je ne dis pas qu'il fait tout, et je n'ai absolument pas, et personne d'ailleurs, n'a la prétention de fétichiser la statistique et de prétendre qu'elle va tout régler, surtout pas se substituer à l'action. La connaissance ne doit pas être l'alibi de l'action. La connaissance statistique, ça permet d'agir plutôt en connaissance de cause. Il faut mieux vaut agir en connaissance de cause qu'en méconnaissance de cause, me semble-t-il. Et donc, très modestement, le statisticien, il a sa part dans cette connaissance. Alors, j'ai envie de dire que bon, la statistique, c'est un peu ce qui permet de monter au beffroi et puis d'avoir une vue d'ensemble. C'est bien, si je suis un piéton dans ma ville, familier des lieux que je fréquente, etc., j'ai un savoir familier. Une phrase de sociologue germano-américain Schütz qui diversifie les degrés de connaissance. Il y a les connaissances qu'on a quand on est un piéton dans sa ville. Dès qu'il faut que je renseigne un étranger sur la façon de s'orienter pour aller à tel endroit, ça devient un peu compliqué. Hein. Peut-être que je suis obligé de lui faire un dessin. Bon. Mais enfin, j'ai quand même le droit de temps en temps de monter, de prendre une vue d'ensemble et de cartographier la ville, d'avoir un plan, d'avoir... voilà. Et c'est un droit qui doit être accessible à tout le monde. C'est une émancipation. Et je suis un peu... j'ai dû trop fréquenter l'école laïque dans ma jeunesse, mais quand le Saint-Office me dit « on sait déjà tout, circuler, il n'y a plus rien à savoir », c'est plus fort que moi, j'ai envie de savoir. Alors, bon, que dire de plus? J'ai déjà parlé assez longtemps. Je ne dis pas, je crois qu'il y a plusieurs écueils à éviter, je ne dis pas que la République discrimine à tout bout de champ. Et je ne dis pas non plus que la discrimination ethno-raciale, par exemple, n'existerait pas. Il est évident que l'apparence physique, par exemple, peut être la cible de discrimination, c'est certain. Donc il y a un double écueil à éviter. Comment savoir? Certains disent non, tout ça c'est territorial et social. Bah, d'où le savent-ils? Évidemment, ça joue un rôle énorme, considérable, c'est évident. Enfin, jusqu'à quel point? Eh bien justement, l'outil statistique est un des outils les plus précieux qui soient pour essayer de démêler tout ça et de savoir dans quelle mesure tout est réductible ou pas, les inégalités sont réductibles ou pas à leur dimension sociale ou territoriale. Voilà, alors c'est un peu compliqué. Il faut pouvoir essayer de travailler toutes choses égales par ailleurs, comme ce que fait le testing d'ailleurs fondamentalement. C'est-à-dire, est-ce que deux personnes ayant les mêmes origines, les mêmes compétences, les mêmes diplômes, etc., se présentant au même endroit, postulant au même emploi, ont ou non les mêmes chances en fonction d'une variable qui les différencie, qui va être une variable d'origine ou une variable d'apparence physique. Alors, on peut se contenter d'une connaissance qui va au cas par cas, qui est le testing judiciaire, qui évidemment est très important. Mais de temps en temps, c'est fortement utile d'avoir une connaissance un peu générale des mécanismes globaux. Et ça peut peut-être même aider, d'une certaine manière, la justice comme élément, je dis bien comme élément, je suis très prudent, de preuve pour avoir un cadrage un peu général du cas qu'ils sont en train d'étudier. Mais vous voyez, ces interactions entre les différentes dimensions, il ne faut pas les postuler a priori. faut pas décréter avec aplomb que telle inégalité ou discrimination n'est que sociale et territoriale, ne doit donc être traitée qu'en tant que telle, car d'où le sait-on ? C'est ça le problème. Eh bien, la pratique montre qu'en général, on ne le sait pas et qu'on le postule. Alors après, il y a toute la question des catégories qui est assez complexe et qui me trouble beaucoup. Parce que, selon les auteurs, souvent les adversaires des nomenclatures ethno-raciales en fabriquent pour bien montrer à quel point elles sont mal faites. Alors, c'est comme ça que j'apprends en quoi ça consiste, parce que moi, j'en ai jamais fait. Donc, je découvre avec intérêt en quoi consistent certains référentiels ethno-raciaux. Je vois que selon les auteurs, maghrébin par exemple est considéré comme ethno-racial, alors que d'autres auteurs, je pense à Jean-François Amadieu, utilisent maghrébin en m'expliquant que c'est géographique et pas du tout ethno-racial. Alors ça m'intrigue parce que je me dis que une frontière aussi sacrée, aussi difficile que le constitutionnel et le non-constitutionnel, le républicain et le non-républicain, comment va-t-on réussir à la faire passer entre les variantes quasiment indiscernables de la même notion. Enfin, arabe, nord-africain, maghrébin, tout ça, ça n'est que les harmoniques d'une même notion. Et c'est à l'intérieur de tout ça qu'on va faire passer le limès qui va nous protéger des barbares. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Et je me dis que, bon, je pourrais citer d'autres exemples, je suis très frappé de voir, c'est vraiment absolument frappant, que les plus farouches adversaires des statistiques dites ethniques en font. Que SOS Racisme, par exemple, fait de la statistique ethnique quand il comptabilise les patronymes selon leur consonance étrangère dans les boîtes aux lettres d'un immeuble. C'est la statistique et c'est ethnique, puisqu'il y a une interprétation qui est faite des patronymes qu'on va verser d'un côté ou de l'autre. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Voilà, donc... Et je pourrais citer bien d'autres exemples. Alors, où passe la frontière entre le licite et l'illicite, entre le républicain et le non-républicain ? Bon, moi, j'ai le sentiment que j'ai pas de leçon de républicanisme à recevoir, mais il ne suffit pas de le dire comme ça. Je pense qu'il faut essayer de proposer un véritable clivage, qui est, à mon avis, beaucoup plus pertinent, qui consiste à dire que est ethnique, bêtement ethnique, j'ai envie de dire, ce qui se polarise uniquement sur l'ethnicité. Ce qu'on trouve très souvent dans les statistiques du census américain, par exemple, dès la première page du web américain, vous avez hop, sexe, âge, ethnicité, sans aucune correction, avec la fameuse nomenclature officielle de l'Office of Management and Budget, cette espèce d'entité qui est à la Maison Blanche, qui est à la fois un secrétariat général du gouvernement et un secrétariat au budget, d'une certaine manière, et plus encore. Enfin bon, et qui dicte la nomenclature que le census américain doit appliquer, que les services fédéraux doivent appliquer pour les marchés réservés, etc., etc., et qui dicte même la façon dont, en cas de réponse multiple, on doit agréger les différentes réponses. Bon, on n'a jamais eu l'équivalent de tout ça en France. On est tout à fait libre de réaménager nos nomenclatures, nos catégories en géométrie variable et à volonté, fort heureusement. Et même si vous prenez un référentiel qui existe, celui des catégories socioprofessionnelles, qui est un vrai référentiel d'une certaine manière, il n'a jamais donné accès à un droit quelconque. Vous ne trouvez aucun texte en France disant à cause de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle, vous avez accès à tel droit, ou au contraire, vous n'y avez pas droit. Donc il existe des semi-référentiels qui n'ont pas d'effet juridique, qui sont de pure création statistique. La nomenclature socioprofessionnelle de l'INSEE, c'est une pure création de l'INSEE. C'est repris par les instituts de sondage, c'est imité plus ou moins, etc. Mais bon. Vous avez des nomenclatures tout à fait officielles qui, elles, ont une valeur juridique. La nomenclature des diplômes par le ministère de l'Éducation nationale, c'est un vrai référentiel qui est pris en compte dans les concours, par exemple, pour fixer des seuils, etc. Mais il y a des centaines de... Moi, par exemple, j'ai étudié toutes les langues qui apparaissaient dans l'enquête famille des 99. Des milliers de langues sont apparues, y compris africaines, asiatiques. J'ai utilisé des nomenclatures de langues, j'en ai fabriqué plusieurs. Personne ne m'a accusé d'avoir divisé le pays en communautés linguistiques. Donc, on devrait pouvoir, dans des conditions extrêmement contrôlées, qui sont celles de l'enquête, anonyme, confidentielle, recueillant le consentement des personnes, avec des fins de connaissance, une finalité parfaitement contrôlée, on devrait pouvoir poser un certain nombre de questions sans être accusé de créer des référentiels qui aussitôt, fatalement, se répandraient dans toute l'administration, envahiraient tous les bassins d'emploi, toutes les entreprises, etc. Je crois qu'il y a le moyen de trouver des instruments qui soient adaptés à chaque besoin et qui nous permettent à la fois de généraliser les outils, la statistique publique, qui sont très intermittents, très ponctuels, très peu utilisables, très récents, et de l'autre, essayer de trouver aussi des instruments qui puissent nous permettre à nous citoyens, peut-être à la justice de ce temps, de vérifier de loin en loin comment évoluent les choses. Parce que la mesure des progrès reste quand même... Alors s'il faut compter, je crois qu'il faut essentiellement compter pour rendre des comptes. Ce sera ça ma formule finale.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des micros. Voilà. S'il y a des gens qui ont des questions à poser. Sinon les intervenants d'eux-mêmes, je pense... En fonction de leurs interventions, auront des choses à dire où je pourrais leur poser des questions. Mais est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Voilà. Ou alors vous êtes déjà trop fatigué. Non, il y a quelqu'un qui a une question.
Excusez-moi. J'ai raté le début, donc ça a déjà été défini. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui définit une minorité en fait ?
De...
Question large, ben chacun des intervenants va de son point de vue répondre.
Je peux vous dire qu'en ce moment, l'INED fait une enquête sur cette idée-là. Qu'est-ce que c'est qu'une minorité ? Qu'est-ce que c'est qu'une majorité dans le public ? On a été